We Do Biz, premier sur les entrepreneurs.
Les entrepreneurs bougent, créent, partagent sur We Do Biz.
Sur We Do Biz, qu'est-ce qu'ils font comme chose, les entrepreneurs, effectivement. Et aujourd'hui, on va encore donner un très beau signe de vitalité dans cette émission que le monde entier nous envie de Passerelle PME, qui décrit un peu à chaque fois cette relation assez fantastique et assez efficace qu'on peut nouer entre un grand groupe qui est à ma droite aujourd'hui, mais vous ne le voyez pas, mais il est bien là, je vous le confirme. Et puis le monde des startups, représenté aujourd'hui par Nicolas Bellego, qui lui est en face de moi et qui va nous parler de Paris Incubateur. Donc, bonjour Grégory, vous représentez Renault aujourd'hui.
Bonjour.
Pour cette aventure à trois, ce qui est assez rare, hein, aujourd'hui on innove, donc puisqu'on est trois derrière les micros, donc on va jouer un petit peu le jeu de ce trio. Alors j'ai envie de dire aujourd'hui c'est assez rare effectivement d'avoir cette relation assez fouillée, assez poussée, etc. Qu'est-ce qui vous a poussé au départ, même si vous m'expliquez qu'il y a une genèse et puis il y a eu un tout petit peu de monde avant votre arrivée, mais cette volonté maintenant dans l'innovation. Alors beaucoup de grands groupes nous disent finalement l'innovation aujourd'hui elle est plutôt en dehors de chez nous que chez nous, et c'est aussi un autre moyen, comme le dirait très bien Mythique avec les rencontres, d'aller se rencontrer quelque part. C'est un sentiment que vous avez vous aussi aujourd'hui?
Aujourd'hui effectivement pour un grand groupe ça peut être difficile d'innover,
ouais.
Pour tout un tas de raisons, et d'autant plus dans un nouveau domaine pour un grand groupe. Je veux parler des services.
Oui.
Renault, en termes d'innovation dans l'automobile, a tous les moyens à sa disposition. Néanmoins, en termes de services, on a préféré faire appel au savoir-faire des startups.
Oui. Oui. Donc, vraie volonté aujourd'hui. Alors vous, Grégory, expliquez-nous un petit peu votre métier. Parce que sur votre carte de visite, chef de projet amont service, mais on parle aussi de moyen terme et de long terme. Alors, qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire quand vous êtes arrivé chez Renault en termes d'innovation?
Alors, on m'a demandé de construire en fait la vision de Renault en termes de services connectés.
D'accord.
À moyen et long terme.
D'accord.
Donc, moyen et long terme dans le monde des services, c'est pas 5 à 10 ans comme on peut avoir dans le monde industriel, c'est plutôt 3 à 5 ans.
Ouais.
Pour construire cette vision, il faut à la fois pouvoir développer une offre, j'ai envie de dire, institutionnelle,
oui,
mais aussi s'appuyer sur de l'énergie pure, sur de l'innovation qui arrive à sortir des sentiers battus. Et pour cela, on s'est appuyé sur un partenariat avec Paris Incubateur, donc représenté aujourd'hui par Nicolas. Et ce partenariat, en fait, nous permet d'avoir accès à des startups et aux startups d'avoir accès à Renault.
D'accord.
Et effectivement, ce lieu de rencontre était essentiel pour en fait trouver un endroit de discussion, d'échange,
ouais,
en dehors du domaine classique du business.
Ouais. Alors, il y a une affaire de génération aussi, parce que je pense que vous êtes d'une génération relativement proche. Si je vous vois tous les deux, grosso modo, il ne doit pas y avoir 20 ans d'écart. Aujourd'hui, les gens qui pilotent toutes ces activités d'innovation, est-ce que vous sentez que c'est un phénomène générationnel? Ils ont plutôt moins de 40 ans ou je me trompe?
Chez Renault, on a toutes les générations qui sont représentées.
Ouais, ouais.
Je suis, pour ma part, donc à la direction de la stratégie après-vente.
Ouais.
Dont le directeur est une personne jeune pour la responsabilité, ouais, qui l'endosse. Maintenant, on a vraiment donc toutes les générations, et je pense que c'est important en termes d'innovation de ne pas se cloisonner à la génération 20-25 ans, mmh, ou 35,
ouais.
Ouais. 35 ans. Beaucoup de start-up sont en fait des startups jeunes dans leur création, mais portées par ce qu'on peut appeler des seniors, ou en tout cas des gens d'expérience,
ouais, ouais,
qui ont eu la chance parfois de connaître aussi des échecs.
Ouais,
c'est
fait
quelque chose d'important.
Alors, il y a d'ailleurs deux points très intéressants là-dessus. Le premier, c'est que sur les statistiques INSEE de l'année dernière, en fait, la moyenne d'âge des créateurs en France, que je pensais plus jeune, est de 38 ans. Ce qui donne quand même une idée. Bon, ça inclut aussi des reprises d'entreprises qui sont faites souvent par des gens un petit peu plus seniors. Mais 38 ans. Donc, ça veut dire que finalement, c'est foisonnant d'un petit peu partout, et ça corrobore ce que vous disiez. Et la deuxième chose, qui est une chose très vraie, parce qu'on parlait avant cette émission et sa préparation d'Israël investit massivement sur les gens qui ont échoué une fois. Parce que les statistiques prouvent qu'en gros, un entrepreneur qui est un primo-entrepreneur réussit une fois sur 12 en moyenne. C'est une fois sur 5 quand il a échoué une fois auparavant. Bon. Cette petite digression faite, alors qu'est-ce qu'on peut rêver de voir sans délivrer de rien de confidentiel? Mais qu'est-ce que va devenir notre voiture connectée? À quoi elle va se connecter? Alors déjà, qu'est-ce qu'elle nous donne aujourd'hui? Vers quoi elle nous emmène? On parlait de TomTom, on parlait d'un certain nombre de choses tout à l'heure, on peut en reparler rapidement, mais à quoi on peut s'attendre avant de donner la parole à Nicolas sur votre collaboration?
Alors, tout d'abord, aujourd'hui, la voiture connectée existe déjà.
Oui.
On a tous, en tout cas, une personne sur deux a un Carmina TomTom quand il roule en Renault. Et au travers de ce Carmina TomTom, on a accès au Traffic Live, qui est déjà le premier service connecté. Demain, avec le véhicule électrique, cette offre de services connectés va s'enrichir naturellement avec la possibilité de lancer la charge de son véhicule à distance, de pouvoir lancer sa climatisation pour arriver avec un véhicule à 19 degrés plutôt que 25-30 en été. Mais au-delà de ces premiers services, on va en fait aider le conducteur dans son déplacement, dans sa mobilité, avec de l'information sur les prix des carburants, l'information sur ses places de parking. On a une très bon exemple de start-up là-dessus. Ouais. Bien sûr, tout ce qui est les partenariats, cette fois-ci, non pas avec des start-up, parce qu'il faut aussi des institutionnels. Donc, on a parlé de TomTom. Il existe aussi un partenariat avec Coyote.
Ouais.
Donc, voilà, une offre vraiment centrée autour de l'automobile, autour de la mobilité, avec un objectif non pas de venir en doublon pour le conducteur de sa tablette, de son téléphone, mais vraiment de venir l'accompagner dans son véhicule avec une offre complémentaire centrée autour de ce dont il a besoin pour son déplacement.
Alors, pour parodier la pub, et on va donner la parole à Nicolas Bellego, quoi de mieux que Renault pour incuber votre start-up? Ça va être la reprise de la publicité, on va pouvoir utiliser la formule. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, Nicolas, à aller frapper à la porte des grands groupes, et quel type de partenariat vous attendiez de leur part? Alors d'abord, quelques mots Paris Incubateur, un petit peu sa genèse, la mairie de Paris, le réseau d'incubateurs spécialisés, comment ça fonctionne en deux mots pour le rappeler à nos auditeurs?
Effectivement, Paris Incubateur, c'est une structure qui est portée par la ville de Paris,
oui.
Qui est en gros un réseau de plusieurs incubateurs sur Paris. Ce sont des incubateurs technologiques, c'est-à-dire l'idée c'est de sélectionner et d'accompagner le développement de jeunes entreprises innovantes qui pour la plupart ont développé une technologie en interne. Et pour effectivement répondre à votre question sur l'intérêt des grands groupes, très vite les startups qu'on accompagne ont besoin d'argent. Donc
ça
peut être des fonds publics, des fonds privés, donc il y a tout un travail sur la mise en relation avec des investisseurs, mais elles ont surtout besoin de clients, de pouvoir accéder à des marchés, de pouvoir porter leur technologie. Et le grand groupe, par définition, est un relais intéressant parce qu'il donne accès à ce marché. Donc une des demandes fortes de ces startups, c'est d'être connecté à ces grands groupes. Peut-être pas immédiatement pour faire du business, mais au moins dans un premier temps pour pouvoir travailler avec ces grands groupes, comprendre leurs besoins et essayer de rentrer dans du concret en termes de partenariat. Donc c'est de là qu'est partie l'idée, parce que la demande était forte, c'est-à-dire on prétend accompagner des startups, on essaie de répondre à leurs besoins, et le premier besoin c'était ça. C'était est-ce que vous, avec peut-être l'étiquette Ville de Paris, avec le réseau Paris Incubateur et la petite visibilité que vous commencez à avoir, vous pourriez mobiliser des directions innovation de grands groupes pour nous présenter auprès d'elle.
Ouais. Voilà. Et donc Renault a été un des tout premiers à répondre.
Alors Renault, effectivement, a joué le jeu dès le départ, a joué le jeu sur le concept de l'incubateur en partenariat. On avait déjà depuis quelques temps des démarches auprès de grands groupes, mais moins structurées et disons beaucoup plus ponctuelles.
Ouais.
L'idée étant de créer des sessions de rendez-vous entre des startups et des grands groupes. Ça, on le faisait depuis un moment. Et puis on s'est rendu compte il y a 2-3 ans temps que certains grands groupes voulaient aller plus loin, structurer ces relations, que ça, ça reste pas juste une relation ponctuelle. Donc mettre en place un cadre plus concret.
Pas de relation d'un soir, quoi.
Voilà, exactement.
D'accord.
Donc ça a été la première remarque. La deuxième, elle était également exprimée par les startups elles-mêmes, qui étaient parfois un peu frustrées d'avoir d'obtenir un rendez-vous avec une direction innovation d'un grand groupe, de présenter leurs innovations, et puis ensuite ça n'allait pas beaucoup plus loin pour différentes raisons. Non pas que le projet n'intéressait pas, mais on était sur des différences culturelles, des différences de timing, de
priorités, d'appel d'offres,
exactement.
Aussi,
ouais. Donc on sentait que ça coinçait à un moment donné, et d'où l'idée d'essayer de poser un cadre et de structurer cette mise en relation. Et donc on a proposé à l'époque un petit peu à différents groupes de réfléchir ensemble à un incubateur commun où on sélectionnerait ensemble les startups qui font sens pour le grand groupe et on les accompagnerait ensemble. Et quand on a jeté un petit peu cette idée par mail à différentes directions innovation, Renault était le premier à réagir et a très vite vu l'intérêt et a souhaité concrétiser rapidement le partenariat. Donc c'était un vrai pari parce que c'était la première fois, je crois que d'ailleurs en France, je ne sais pas en Europe, mais en tout cas en France, je crois que c'est la première collaboration de ce type sur un format d'incubation commun. Donc c'était un vrai pari. Et nous, on n'avait pas de référence non plus en la matière. Donc Renault a vraiment joué le jeu. C'était plutôt sympa.
Bon, et on regrette pas.
Renault Formule 1. Alors du coup, premier sur la première ligne de départ. Alors comment se passent vos relations? Vous me disiez qu'en gros, effectivement, il y a un peu de temps, comme vous le décriviez très bien. Donc des choses avec la saison 1, c'est comme dans les grandes séries américaines, saison 1.
On a repris le format des saisons avec les séries américaines. Plus sérieusement, ça permet aussi de se donner un cadre temporel dans cet échange avec chacune des startups. Donc pour expliquer ça simplement, à chaque saison correspond 5 startups et 5 mentors.
D'accord.
Et le rôle de ces mentors va être d'accompagner chacune de ces startups en lui apportant de l'expertise, un œil extérieur, du coaching, et aussi le rôle de guide pour pallier en fait aux problèmes décrits par Nicolas sur les différences de culture et de timing d'un grand groupe.
Et à quoi il ressemble le mentor? Est-ce qu'il est vraiment technique, innovation, ou il peut être de tout autre type de compétences?
Alors en fait, on s'appuie tout d'abord sur une équipe transverse qu'on appelle la Core Team et qui regroupe l'ensemble des métiers de Renault, de l'ingénierie jusqu'au commerce, et le mentor va être sélectionné dans cette équipe transverse, dans cette Core Team. Et donc, pour prendre un exemple concret, on va avoir quelqu'un qui va être qui va être responsable du digital, du marketing digital. On va avoir quelqu'un de la partie ingénierie, quelqu'un qui va s'occuper de la prestation client, quelque chose de très important chez Renault. Donc voilà, chacun va apporter son expertise qui va être très différente. Et la force de cette core team, c'est justement de pouvoir avoir accès rapidement à une expertise différente de par les collègues, en fait.
Et vos mentors, parce que pour tous ceux qui pratiquent un peu le mentorat, l'accompagnement, on s'aperçoit qu'au début, le mentor vient pour apprendre ou accompagner ou en tout cas transférer quelque chose. Et on s'aperçoit qu'au final, lui aussi apprend des choses. Vous avez ce retour?
Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est, on a plongé dans la saison 2 parce que au-delà des avantages business que l'on peut avoir d'aider des startups et d'être donc aux premières loges de leur développement, l'enrichissement des collaborateurs au sein de Renault a été très important, et chaque mentor s'est trouvé enrichi effectivement des échanges qu'il a pu avoir avec ses startups et du peps que ça peut donner.
Alors ça, c'est l'aspect mentorat, et puis un aspect éventuellement un peu plus business où vous allez essayer de... Alors il y a un côté GPS aussi, je te guide à l'intérieur du grand groupe, parce que c'est vrai que dans un grand groupe, par définition, il y a plein de couloirs, il y a plein de portes, donc il faut savoir laquelle pousser. Donc ça, vous les aidez aussi à passer de l'innovation à l'achat éventuellement?
Tout à fait, oui. Ils sont, on les guide au sein de la maison Renault, tout en essayant de ne pas rentrer dans la discussion business pour garder cette qualité d'avis extérieur, parce que sinon, on ne devient qu'un intermédiaire de plus.
C'est clair.
Et c'est, on perd l'intérêt.
D'accord. Alors Nicolas, racontez-nous quelques belles histoires nées, alors bien sûr, qui sont nés de cette première collaboration, éventuellement d'autres, mais on parlait tout à l'heure d'Apila, comme citait Grégory Boudier. Est-ce qu'il y a quelques belles histoires comme ça et que vous avez envie de nous décrire pour nous faire rêver et saliver?
Oui, alors ce n'est que le début. Hein. Ouais, ça fait un an, c'est la première saison. Effectivement, sur cette première saison, on a aujourd'hui 4 startups qui fonctionnent plutôt pas mal et qui ont pu évoluer dans l'écosystème,
ouais,
Renault.
Ouais.
Faut pas oublier quand même, je le précise, que l'idée de ce partenariat et de cet écosystème, c'est quand même à terme d'essayer de faire du business. Faut pas se cacher là-dessus. L'idée, c'est de prendre le temps, de créer un cadre, mais il y a un intérêt business derrière. Donc là-dessus, les business en cours, ils sont différents puisque les boîtes ont des stades de maturité un peu différents.
Ouais.
Je pense à Apila, effectivement, qui est une solution de parking intelligente, stationnement intelligent. Donc je déclare quand je quitte ma place de parking,
ouais,
et quelqu'un peut la prendre à ma place. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Pour une boîte comme Apila, je pense que le partenariat avec Renault, c'est déjà de la visibilité.
C'est-à-dire,
c'est être présent à terme dans la voiture, ouais, équiper les véhicules Renault, mais c'est aussi de la visibilité. Donc c'est une référence, et
ouais,
je pense que ce qu'on recherche aussi à travers ce partenariat pour des startups, c'est déjà obtenir la référence.
C'est essentiel.
Donc c'est le premier point. Ensuite, si tout se passe bien et si tout le monde est content, c'est du déploiement, et donc c'est toucher un plus grand nombre de véhicules et de clients.
Ouais.
Donc pour la startup, c'est jackpot. Donc c'est un peu ça l'idée.
D'accord.
Donc Apila, on en est là. C'est une solution qui se développe en ce moment, qui a un nombre d'utilisateurs assez intéressant.
Ouais.
Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir poursuivre,
ouais,
son développement. On a des boîtes comme MobiQuissings, où alors là, on n'est plus dans le service en termes d'application sur une tablette, mais dans de la connectivité. C'est en gros un MVNO M2M. Je ne sais pas si ça vous parle. J'ai un opérateur, en gros, pour connecter les petits objets.
Complètement. Ouais.
Donc, en gros, l'intérêt de cette technologie qui est assez impressionnante, c'est que en gros, il vous propose des cartes SIM multi-opérateurs.
D'accord.
Donc, je soude une carte SIM dans ma tablette et elle va automatiquement aller chercher le meilleur opérateur.
Meilleur opérateur, oui.
Et j'ai pas besoin de changer quand je change de tablette. Voilà.
Oui.
Donc, de carte SIM.
Bon, ils nous attendent belles choses. Donc, comme il nous reste relativement peu de temps, alors en plus, bon, c'est vrai que Renault, quand on parlait beaucoup d'Israël avant cette réunion, mais c'est vrai que ce fameux entrepreneur un peu mythique maintenant qui parlait des locations de batteries, son meilleur interlocuteur, celui qui lui a vraiment tendu la perche, était un certain Carlos Ghosn. Donc effectivement, Renault, c'est être extrêmement innovant sur le sujet. Alors d'abord, la saison 2 s'achève quand? La saison 3 démarre quand? C'est quoi le rythme des saisons?
C'est une saison un an, et la clôture des candidatures était le 31 janvier.
D'accord.
Et on aura décidé fin mars.
Les 5 startups
cinq
à nouveau.
Les 5 nouvelles startups.
D'accord. Bon, ma belle aventure. Combien de partenaires, Nicolas, au total aujourd'hui?
De ce type.
De grandes. Ouais.
Alors on a comment la même expérience avec JC Deco,
ouais,
depuis peu. Donc
ouais,
on a lancé un appel à candidature aussi en décembre 2012.
Ouais, il y a des choses à faire avec l'affichage. Ouais.
Voilà, une quarantaine de candidatures, ouais, reçues, et donc on va sélectionner aussi sur le même modèle. Entre 3 et 5 nouveaux projets. Donc voilà, il y en a d'autres en cours, mais pour l'instant, c'est encore en formalisation.
Parfait. Comme là, en voiture, on peut parler vraiment de technologie embarquée, du coup, sans mauvais jeu de mots. Grégory Boudier, Nicolas Bellego.
Hein? Bondier.
Bondier. Ah, en plus, je vous écorche, j'en suis désolé. Donc, l'innovation de chez Renault est en marche. Nicolas, pour Paris Incubateur, merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Toutes vos coordonnées seront sur le site internet. Vous allez être assaillis pour la saison 3. Merci à vous.
Merci.
Et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission de Passerelle PME, très prochainement, mais après que vous soyez repu et re-repu de cette émission passionnante sur ces collaborations entre les grands groupes, et là particulièrement sur cette magnifique expérience Paris Incubateur et Renault. À très vite, bonne journée à vous, au revoir.